Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Imaginez, une dernière fois, que nous soyons en 2041. Qu'est-ce qui, à partir de nos connaissances d'aujourd'hui, peut nous permettre de lever le voile sur ce futur relativement proche ? Pour cette troisième et ultime histoire de l'avenir de l'été, une série que vous pouvez retrouver dans Les Échos, Le Voyage dans 20 ans va nous plonger dans la multitude humaine. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et avec Marie Bellan, chef du service Idées Débats, nous allons voir ce que disent les projections d'une démographie à géographie variable. Comme l'écrit Marie Bellan en ouverture de son article paru dans Les Échos, quand on parle démographie, 20 ans, c'est demain. Alors Marie, on est aujourd'hui déjà beaucoup sur Terre, mais demain, en 2041, combien serons-nous et combien cela fait-il de plus ?
Alors en 2041, nous serons, selon les projections faites par les démographes de l'ONU ou de la Banque mondiale, 9,2 milliards. Et si on va encore un petit peu plus loin, un petit saut dans le temps d'une dizaine d'années de plus, en 2050, on atteint le chiffre un peu symbolique de 10 milliards. Mais pour revenir sur 2041, donc 9,2 milliards, ça fait tout de même 1,3 milliard d'habitants supplémentaires par rapport au nombre que nous sommes aujourd'hui. Ça paraît un peu abstrait, mais pour se représenter la chose, c'est comme si on mettait aujourd'hui sur la Terre un continent comme l'Afrique en plus. C'est pas rien quand même.
Et ces chiffres que donnent les projections sont à peu près certains ?
À moins d'une catastrophe ou d'un cataclysme nucléaire ou que sais-je, les projections à 20 ans, elles sont quasi certaines. C'est-à-dire que, effectivement, en démographie, 20 ans, c'est très peu. Les gens qui seront là dans 20 ans, la plupart, ils sont déjà nés. Donc, les taux de fécondité, de natalité, ils évoluent dans le temps, mais pas aussi rapidement. Donc, 20 ans, c'est des chiffres déjà, on va dire, quasi certains. À 50 ans ou 80 ans, parce qu'on fait même des projections jusqu'en 2100, là, bien sûr, généralement, on fait un scénario médian et on peut le faire varier avec scénario haut, scénario bas, en mettant des taux de natalité et des taux de mortalité, qui sont les deux grands indicateurs donc, qui influencent le nombre de la population et la démographie, qui peuvent varier dans le temps à ces horizons très lointains. Mais encore une fois, voilà, 2041, on en est à peu près sûr, les 9,2 milliards, ils y seront.
Les prévisions les plus optimistes pour la propagation du virus sont les suivantes. En 24 heures, 36 heures, 48 heures.
Le plus grand fléau de tous les temps.
Nous ne l'arrêterons pas.
Commence.
Essayez de rester calme.
Mais par exemple, un épisode comme le Covid-19 pourrait-il fortement impacter ces projections ?
À très long terme, non. On va dire que ce sont des événements conjoncturels. C'est spectaculaire. Il y a effectivement beaucoup de morts. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, ça a quand même mis à l'arrêt les économies de la planète. Donc, c'est pas rien. Les chiffres, d'ailleurs, qui sont sortis ces derniers jours font état d'une perte de près de 1 an et demi d'espérance de vie aux États-Unis. Alors, qui ne sont pas dus, d'ailleurs, qu'au Covid-19, mais aussi, notamment, à la remontée des morts par overdose due à une surconsommation d'opioïdes. Donc, c'est un problème qui peut être lié au Covid-19 ou au confinement, mais qui n'est pas directement des morts du Covid. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud, notamment, qui ont eu un très fort recul de leur espérance de vie là, cette dernière année, puisqu'on atteint, je crois, 3,8 années en moins pour les hommes, puisqu'ils ont été plus touchés que les femmes sur tous les continents. Mais donc, c'est important, 3,8 années en moins, parce que d'habitude, on gagne quelques mois par-ci, par-là. Mais malgré tout, même si ces chiffres sont impressionnants, sur 20 ans, finalement, surtout à l'échelle de la planète, et sur cette longue durée, ça restera un épiphénomène. Et je vais faire un autre parallèle parallèle aussi avec le... On a parlé de baby crash, par exemple, à la suite du confinement, notamment en France, où les chiffres de la natalité avaient énormément baissé, de près de 13% en janvier 2021 par rapport à janvier 2020, qui c'était un peu les bébés qui devaient être conçus pendant les premières semaines du confinement, puis qui n'étaient pas là par rapport à l'année précédente. Et ce qu'on remarque, c'est que 3 mois après, donc en avril 2021, on est revenu au niveau d'avril 2020. Donc, on voit bien qu'en fait, ces phénomènes, c'est quand même très conjoncturel. Et c'est surtout vrai pour les naissances. Généralement, une crise, aussi grave soit-elle, elle retarde des projets de naissance, mais elle ne les supprime pas ou elle ne les annule pas en tant que telle. Voilà. Donc, ça pour dire qu'il ne faut pas être parfois trop en alerte sur des signaux faibles qui sont certes intéressants, mais qui, sur le long terme, en fait, finalement, s'effacent et on reste sur des grandes tendances qui avaient été prévues.
Pour cette population à 20 ans, on peut parler d'explosion démographique ?
On ne peut pas parler d'explosion parce que l'explosion, elle a eu lieu, mais elle est plutôt derrière nous maintenant. Pour remonter un peu dans le passé, c'est vrai que, par exemple, entre 1960 et 1999, on est passé de 3 milliards d'habitants sur la Terre à 6 milliards, ce qui veut dire qu'en 40 ans, on a quand même multiplié par deux. On n'est plus du tout sur ces ordres de grandeur aujourd'hui. Ça augmente, certes, mais beaucoup moins vite pour une raison simple, c'est que ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire une baisse du nombre de naissances corrélée à une baisse de la mortalité où les deux commencent à s'équilibrer, a eu lieu quasiment aujourd'hui sur la plupart des pays de la planète. Alors, ça a mis plus d'un siècle dans certains pays d'Europe. Et ça a mis quelques années. Par exemple, le Bangladesh, en quelques années, ils ont déjà amorcé une transition démographique assez spectaculaire. Ce n'est pas le cas de tous les pays de la planète. Mais aujourd'hui, on peut dire que la majorité des pays ont fait cette transition démographique. Et donc, c'est pour cette raison que l'explosion démographique est donc bien derrière nous.
Retour sur le plateau de la Semaine de l'écho. Le sud de Madagascar, face à une sécheresse inédite, sa population au bord de la famine. Depuis des semaines, l'ONU alerte sur un désastre humanitaire touchant plus d'un million de personnes et y voit les effets du réchauffement climatique. Ailleurs dans le monde, la flambée des prix agricoles réveille le spectre d'une crise alimentaire. Doit-on craindre de nouvelles émeutes de la faim ? On en parle tout de suite avec mes invités.
Est-ce que pour autant, ce qui est prévu est tenable pour notre cohabitation entre humains et pour la planète en ressources ?
En fait, j'allais dire, ça dépend surtout de nous et de nos comportements. Notamment, alors on parle beaucoup de raréfaction des ressources naturelles. En réalité, et tous les experts des matières premières le disent, il y a suffisamment de ressources sur la Terre pour pouvoir nourrir 9 milliards d'habitants, 10 milliards d'habitants. C'est pas tellement ça le problème. Le problème qui se pose, c'est plutôt des problèmes de distribution alimentaire, de spéculation sur les matières premières, des conflits aussi qui peuvent priver de nourriture certaines populations dans des pays pauvres notamment. Et même si on prend l'exemple de l'eau, qui est souvent l'eau, c'est la vie. Donc, c'est vraiment une des ressources naturelles les plus regardées et sans eau. Mais il ne peut pas y avoir de peuplement de toute façon. Mais même pour l'eau, les vrais manques d'eau sont rares. Et c'est plutôt, en fait, soit des problèmes de gestion ou d'urbanisation galopante qui font qu'on a eu des difficultés à organiser la distribution d'eau potable, qu'à une véritable indisponibilité de la ressource à un endroit de la Terre. Voilà. Ça, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on a suffisamment pour se nourrir, ça dépend comment on s'organise et surtout comment on va manger plus tard, parce que c'est l'alimentation surtout qui risque d'évoluer, avec notamment, je pense, des apports caloriques, en tout cas pour nous, population occidentale, qui seront moindres, parce qu'aujourd'hui, en fait, on mange trop par rapport à ce dont on a besoin, donc on pourrait à l'avenir peut-être avoir des apports caloriques plus faibles, mais surtout une alimentation qui sera moins carnée, parce que l'élevage va sûrement être amené, en tout cas, pour nous, population occidentale, a baissé. Je donne juste ce chiffre qui est très marquant. Quand vous donnez 10 calories à une vache sous forme de céréales pour la nourrir, il en résulte une seule calorie sous forme de viande ou de lait que l'humain peut consommer. Donc ce rapport de 1 à 10, il est très défavorable et donc il est surtout très coûteux en surface de céréales qui doivent être mis à disposition de l'élevage pour ensuite donner un produit transformé. Et ça, tous les spécialistes le disent, on va vers une société où on aura quand même moins de viande parce que l'élevage est trop dispendieux, on pourrait dire, en quelque sorte, en surface agricole.
Oui, et c'est un point qui a été abordé dans l'épisode sur l'alimentation en 2041. Il y a globalement urgence à se montrer plus frugaux, notamment en viande donc, mais est-ce que ce problème sera uniformément réparti et est-ce qu'il sera mondial ?
C'est vrai que le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu des systèmes d'exploitation agricole aussi performants, on a des très bons rendements, on est arrivé vraiment à pousser jusque dans les meilleures exploitations, voilà, des rendements agricoles qui sont très spectaculaires. Et d'ailleurs, ça se voit aussi dans les chiffres. Il n'y en a jamais eu aussi peu de famines aujourd'hui dans le monde qu'en les années précédentes. Donc ça, c'est sûr que c'est un progrès. Il reste tout de même, ce sont les chiffres de l'ONU, 9% de la population dans le monde qui est en situation de sous-nutrition, ce qui est donc assez paradoxal par rapport à tous les progrès qu'on a pu faire. Et ce risque alimentaire-là, il pèse toujours, et bien sûr, il pèsera encore plus on sera nombreux sur la planète.
Il ne peut pas y avoir une population infinie sur un territoire limité. On ne peut pas extraire une infinité de ressources sur une planète finie. On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini.
Marie, le monde connaît déjà des inégalités démographiques. Mais demain, quelle en sera la géographie ?
Il y aura d'un côté des pays où le déclin démographique a déjà commencé pour certains, donc des pays qui voient leur population reculer. C'est le cas du Japon depuis déjà 2 ou 3 ans, c'est le cas de la Corée du Sud, avec un phénomène qui est accentué dans ces pays-là, notamment parce qu'ils accueillent très peu d'immigrés. C'est des pays qui, historiquement et culturellement, ne sont pas très ouverts sur l'extérieur. Donc du coup, leur baisse de la natalité n'est pas compensée par un apport de population immigrée par ailleurs, comme ça peut être le cas notamment dans certains pays européens qui sont plus ouverts à la migration. Là, je pense à l'Allemagne, dont la population va quand même reculer selon les projections dès 2031, ce qui est quand même là demain. La Chine, pareil, là, sa population va décliner selon les projections de l'ONU dès 2031. En France, nous, jusqu'en 2062, ça devrait augmenter. Ce n'est qu'en 2062 qu'on commencera à voir la population baisser. Mais ce qui est frappant, c'est le contraste avec d'autres régions du monde. Alors, je le disais un peu plus tôt, la plupart des pays ont fait leur transition démographique, mais il y a quand même 2 régions du monde où cette transition n'a pas eu lieu encore. C'est l'Afrique subsaharienne, où notamment le Nigeria reste avec une fécondité de plus de 5 enfants par femme là, sur la période, on va dire, 2015-2020, les 5 dernières années, ce qui reste beaucoup. Et tous les pays de cette région sont un peu dans le même cas de figure. Et puis, on a une autre poche avec une démographie très vigoureuse, enfin, en tout cas, une fécondité très forte. C'est tout ce qui regroupe en Asie le nord de l'Inde, le Pakistan et l'Afghanistan, qui sont aussi des pays où la transition démographique n'a pas eu lieu.
Et dans l'histoire du monde, est-ce qu'il y a eu parfois, et dans certains pays, des aubaines démographiques ?
Oui, alors l'aubaine démographique, ça apporte un nom, d'ailleurs, que les démographes appellent le dividende démographique. C'est ce moment qu'on a observé, notamment dans des pays comme la Corée du Sud, Taïwan aussi, et dans une moindre mesure, les pays comme le Vietnam ou la Thaïlande, qui ont eu, au début des années 60, une fécondité qui a baissé très fortement, très rapidement, alors qu'elle était très forte encore dans les années 40-50. Donc, il y a eu une population active pendant 20 ans, dans les années 60, 70, 80, qui est restée très nombreuse par rapport à une population dépendante, donc de jeunes enfants et de seniors, puisque la mortalité était encore quand même assez élevée, donc ils avaient peu de personnes âgées. Donc ils ont eu un rapport de population active sur population inactive très favorable, qui a permis un boom économique. D'ailleurs, on les a appelés les tigres asiatiques ou les dragons d'Asie, c'est pas pour rien, parce que c'était très spectaculaire. C'est-à-dire qu'ils ont profité de ce moment très particulier où les naissances baissent, mais elles ont été très nombreuses avant. Donc vous avez beaucoup de gens sur le marché du travail qui sont disponibles en termes de capacité de production, et vous n'avez pas encore beaucoup de personnes âgées, puisqu'ils ne sont pas encore arrivés à l'âge où ils sont dépendants et où, effectivement, ça coûte cher à la société en termes de retraite, de soins. Donc, ce moment, en fait, il dure pas toujours très longtemps, il dure 30-40 ans, mais il a joué à plein pour ces pays d'Asie. La même chose pourrait s'observer en Afrique, à ceci près que l'Afrique, eh ben, justement, n'a pas fait, en tout cas dans tous les pays, sa transition démographique et que la fécondité, elle reste encore très élevée. Et donc, ils n'ont pas encore atteint ce moment où les naissances baissant, ils ont moins de populations dépendantes de moins de 18 ans à prendre en charge en termes d'éducation. Ça coûte très cher, l'éducation. Et ils ont malgré tout une population qui vieillit. Alors, pas dans des proportions aujourd'hui dramatiques, mais dans 20 ans, il y aura beaucoup de personnes âgées en Afrique. Et heureusement, d'ailleurs, parce que l'espérance de vie, elle augmente chez eux aussi. Les conditions de vie sont meilleures, l'alimentation est meilleure. Voilà, donc l'Afrique, elle pourrait passer un peu à côté de ce moment qui permet à certains pays de décoller très fortement pendant 20-30 ans.
Et ces robots dans les entreprises, ça n'est pas que du folklore. Leur développement répond à un vrai problème de société. Une population vieillissante, de moins en moins d'actifs. En 5 ans, le Japon a perdu 1 million d'habitants. Les Japonais n'ont jamais fait aussi peu d'enfants depuis 120 ans.
Si la situation est tenable, Marie, à quoi tient le défi démographique de demain ?
En tout cas, pour nos sociétés occidentales, c'est pas tellement donc la gestion du nombre, la gestion des migrations, c'est plutôt le fait que on aura des sociétés vieillissantes et on est qu'au tout début de ce vieillissement, si j'ose dire. Donc, on en voit déjà quelques effets. Mais ce vieillissement, en fait, il comporte plusieurs risques. Un risque financier d'abord, parce qu'on le voit, une population qui vieillit, c'est un coût important pour financer les retraites, pour financer les soins des seniors. Donc, ça va peser sur le PIB des pays développés, ça c'est à peu près certain. Ça va peser aussi sur la répartition des revenus entre les générations. Donc ça, il faut aussi voir cette réalité en face. Il y a un risque aussi peut-être culturel et politique, alors qui est moins mesurable, mais les seniors étant plus nombreux, ils seront amenés à façonner une société un peu plus à leur image, donc une société peut-être moins innovante, moins dynamique, donc une société où la croissance sera peut-être moins forte, du fait aussi de ce que je disais auparavant sur les dépenses qui vont peser sur le PIB. Et puis aussi politiquement, ils vont influencer des choix politiques puisqu'ils seront les plus nombreux dans la population. Donc, ça peut induire des choix qui se feront au détriment de générations plus jeunes, par exemple. Alors, on a vu un peu ce genre de tension. On en a beaucoup parlé pendant la crise du Covid-19 où on a dit on a sacrifié les jeunes pour sauver la vie des seniors. Bon, alors, ce débat n'est pas clos et la question se pose. Enfin, ce qu'il faut voir en face, c'est qu'on a sauvé des vies humaines avant tout. Les gens, qu'ils aient 80, 70 ou 30 ans, c'était avant tout des personnes qui allaient mourir. Donc, bon, ça, c'est quand même une réalité qu'il faut avoir en tête. Après, c'est vrai que de plus en plus, parce que nous ne sommes qu'au début de ce processus de vieillissement, vont se poser des choix politiques pour savoir comment réorienter certaines ressources budgétaires sur certaines générations. La France, notamment, a fait beaucoup d'efforts pour lutter contre la précarité des plus âgés, qui était dramatique dans les années 50 et 60, et sur lequel il y a eu des vrais succès de politique publique. Alors, aujourd'hui, on peut se dire, est-ce que ça se fait pas peut-être aujourd'hui trop aux dépens de la jeune génération, qui, elle, a aussi besoin peut-être d'un coup de pouce. Alors, toutes ces questions, elles vont se poser et d'ailleurs, pas qu'en France ou pas qu'en Europe, parce que, en fait, tout le monde vieillit. Et même ce que je disais sur l'Afrique, qui est un continent où la fécondité est encore très vigoureuse, mais elle a aussi une espérance de vie qui augmente progressivement et même de manière assez soutenue. La Chine vieillit à vitesse grand V, c'est un peu son problème d'ailleurs aussi. Donc tous ces pays vont se retrouver confrontés à ces questions de vieillissement, à ces risques dont je viens de parler. Et si on veut éviter une guerre des générations, il va quand même falloir trouver des modes de cohabitation plus harmonieux entre seniors et jeunes pour pouvoir avoir une société où malgré tout, les générations pourront cohabiter sans heurts et surtout, sans conflits. On peut se consoler avec un point positif, peut-être, pour finir sur une note optimiste, c'est que une société vieillissante, c'est moins dynamique, c'est moins innovant, mais ce qu'on a observé malgré tout, c'est que plus une société vieillit, plus la chance de rester dans un régime stable et démocratique grandit aussi. Et donc, dans un monde de paix, puisque les démocraties se font plus rarement la guerre que d'autres régimes politiques, donc au moins, le monde sera peut-être plus vieux, mais plus apaisé. On peut se consoler comme ça.
En 2041, on pourrait donc être globalement plus vieux, mais plus apaisé.
Apaisé. Apaisé. Oh, apaisé.
Ah, oh, Maître Chifou.
Ou bien alors pas. Merci à Marie Bellan pour ce décryptage des chiffres de la démographie. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.